Nous te bénissons de nous accorder encore cette journée de soleil et ce site où tu nous permets de lever les yeux vers le ciel, cette merveilleuse coupole qui vaut plus que toutes celles des cathédrales que nous avons pu voir dans notre vie. Et nous te louons parce que nous savons qu'un jour, nous serons dans tes demeures. Que nous puissions marcher sur la terre comme ces enfants du Père Céleste qui connaissent quelque chose de sa justice, de son amour, de sa grâce, parce qu'ils ont pu les contempler en celui qui est le seul juste. Et sur la face duquel toutes les perfections invisibles du Père ont été manifestées. Et qu'en le contemplant ainsi, nous puissions par reflet apporter son visage à ce monde orphelin, à ce monde désespéré. Donne-nous le visage de l'espérance. Que ton esprit ouvre nos yeux et nos cœurs et incline notre volonté à faire ce qui te plaît et à trouver nos délices dans ce que tu aimes pour ta gloire. Amen. Eh bien, dans ce matin du 18 juillet, nous continuons les enseignements du Dieu vivant que nous trouvons plus particulièrement dans ce 16e camp Mahanaïm dans le livre des Proverbes. Hier, par le chapitre 9 des Proverbes qui terminait la première partie de ce livre, nous avons été conviés à un festin. Le festin préparé par la sagesse. Le repas du Seigneur dans sa maison qu'il a lui-même bâtie et qui repose sur cette colonne dont vous avez été appelés à trouver vous-même des noms. Si nous avons répondu positivement à cette invitation, nous apprenons alors que nous sommes invités également à un autre festin. Je pense que vous y avez songé. Ce festin qui est celui des noces de l'agneau, qui sera célébré dans le ciel. Apocalypse 19, verset 9. Et il est dit: bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Je souhaite que nous soyons tous ici de ces bienheureux, sans exception. Mais si quelqu'un parmi nous s'était excusé, comme les invités au souper que le roi a préparé pour son fils, et dont Jésus lui-même nous parlait dans son ministère, si nous nous sommes excusés pour les raisons énumérées dans ce chapitre 14 de Luc, à partir du verset 18, si nous disons « mais moi j'ai acheté un champ, je dois le voir », ou « j'ai acheté des bœufs, je dois les essayer », ou bien alors, ce qui est encore plus légitime, j'ai épousé une femme, je ne peux pas venir. Pourquoi ne pas venir avec sa femme? Pourquoi ne pas venir avec sa femme? C'est peut-être parce qu'on n'a pas pris la femme que le Seigneur voulait. Et qu'au lieu d'être une aide pour nous encourager à aller au souper, elle nous retient pour aller tout ailleurs. Donc, si nous ne sommes pas venus, alors sachez-le bien, vous recevrez une autre invitation, celle de Dame Folie, celle de la sagesse humaine, apparaissant sous le visage d'une femme. Et quelqu'un m'a dit hier soir, mais pourquoi toujours la femme ? Pour illustrer quelque chose qui n'est pas très bon. Eh bien, c'est simplement pour vous montrer l'importance qu'a la femme. C'est extraordinaire. L'homme n'aurait pas été heureux sans la femme. Et c'est Dieu qui l'a constaté, je lui ferai une aide qui lui correspond. Et il a créé un chef-d'œuvre. Parce que quand Adam l'a vu, bien, cette fois, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. C'était merveilleux pour lui. Voilà la place de la femme. Elle est centrale. Elle n'est pas à côté. Alors, elle est ou une aide pour l'homme, mais si elle n'est pas à l'aide, selon le dessein de Dieu, qu'est-ce qu'elle devient ? Une séductrice. Elle devient séductrice. Si elle n'est pas aide, la femme est séductrice. Et alors tout de suite, pour vous consoler et vous faire admettre que ce n'est pas si fou que ça les proverbes, je vous dirai que si la première partie finit avec cette femme folle et bruyante, tout le livre des proverbes finit avec un homme vertueux, non, avec la femme vertueuse. Alors vous voilà déjà réconciliés. La dernière note, c'est la femme. Mais elle est belle. Elle est merveilleuse. Elle est l'exemple des exemples. Alors, avant de porter des jugements, lisez, lisez, avancez. Ne vous laissez pas arrêter par certaines pensées qui vous bloquent et qui vous empêchent de voir où le Seigneur veut en venir. Du reste, quand il veut parler de l'épouse, qu'est-ce qu'il emploie ? Une femme, bien sûr. C'est pas l'homosexualité. Comprenons-le bien. Donc, hier soir, nous terminions la réunion en entendant l'appel de la folie, c'est-à-dire l'appel du monde, nous invitant à son souper. Pour boire quoi ? Vous avez vu la différence des mets ? Pour boire des eaux dérobées, des eaux douces. Mais qu'est-ce que la sagesse offrait, elle, pour boire ? Du vin mixionné, du bon vin qui réjouit le cœur de l'homme. Quand on est au festin du Seigneur, on a une boisson qui vaut la peine d'être savourée. Mais le monde vous donne des eaux dérobées. Et qu'est-ce qu'il vous donne à manger, ce monde ? Du pain mystérieux, le pain du mystère, qui est aussi le pain de la méchanceté. Tout cela nous montre les jouissances coupables du péché. Ce sont des allusions aux jouissances coupables du péché. Tandis que le festin de la sagesse est excellent en lui-même et il ne doit rien à l'attrait du fruit défendu. Tandis que dans le festin du monde, au fond, ce qui donne du goût à ce festin, c'est quoi ? Le fruit défendu. Parce que ça correspond à la nature pécheresse. Alors, c'est la table des démons. C'est là qu'on nourrit sa nature qui n'a pas changer. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir communion entre la table du Seigneur et la table des démons. Vous rejoignez là le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, que l'on devrait souvent lire aussi, alors qu'on en reste toujours au chapitre 11, quand on célèbre l'Eucharistie ou la Sainte Cène. Le pain vivant, voilà ce qu'on a avec la sagesse, et non pas le pain du mystère. Alors je vous demande, en ce 18 juillet, à quel rendez-vous irez-vous ? Au festin de la sagesse, ou prendrez-vous le sentier du monde, de la femme folle ? Car sachez que la maison de la folie est fréquentée par des ombres, des morts spirituels, et qu'en allant avec eux, vous descendez où ? Vers le tombeau, vers la mort éternelle. Cette maison du monde, c'est la succursale de l'enfer, mais déjà sur la terre. Vous ne le saviez pas ? Il est dit, on l'a vu ce verset, il ne le sait pas que ça va là. Mais vous, vous ne pouvez plus dire cela. Et si nous avons essayé ou été si forts, c'est pour que vous ne puissiez plus dire je ne le savais pas. Vous le savez. Mais ma responsabilité est terrible. Et Jésus, à la fin de son ministère, il a pleuré parce que il a dit si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, leur péché demeure. Alors, mes amis, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti. Vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas ». Vous le savez où ce chemin mène. Et vous le savez maintenant. Jésus disait « moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. » C'est l'illusion que le monde nous donne. Alors ce matin, nous arrivons à la deuxième partie du livre des Proverbes. Et je suis bien conscient, croyez-le, que nos études précédentes ont été très imparfaites. Et je sais que celles que nous entreprenons aujourd'hui, en nous penchant sur ce qu'on appellera plus particulièrement les maximes, les sentences, les courtes sentences, présentées comme préceptes, eh bien, ce que nous vous apporterons comme étude, ben, ce sera encore plus imparfait et que ce que je vous ai présenté. Pour quelle raison ? Parce que chacune de ces maximes, chaque verset qui se trouve dans ces 21 chapitres que nous avons encore à voir, pourrait faire le sujet d'une méditation. On pourrait s'arrêter à chaque verset puis remplir l'heure, sans s'ennuyer. Chacune de ces maximes pourrait faire le sujet d'une méditation. Et pourtant, nous devons au contraire tout concentrer en ces quelques 20 heures seulement qui nous restent jusqu'à la fin du camp. C'est ça qui m'inquiétait au début du camp, ou avant le camp, dans le temps où Dieu m'avait donné cette pensée pour l'année de la jeunesse internationale, tu dois prendre les Proverbes. Puis, alors j'étais tranquille, j'avais un sujet, je prendrais les Proverbes, Seigneur, puisque tu me le dis. Alors je pouvais partir en Israël, je pouvais faire toutes mes réunions qui n'avaient rien à voir avec ce sujet, en France, en Belgique, en Suisse et en Italie. Mais après, je reviens, puis tout à coup, c'est la montagne. C'est fou. Tu as dit les Proverbes. Mais tu prends compte, 31 chapitres. Alors, est-ce que tu vas prendre des thèmes comme ça, des sujets ? Puis le Seigneur me dit, non, je n'ai pas donné les Proverbes comme ça. J'ai donné les Proverbes de cette manière. Tu vas les donner de la manière dont mon esprit a inspiré l'homme ou les hommes qui les ont prononcés. Ne pense pas que tu doives changer, parce que on est 15 ans avant l'an 2000. Continue de prendre mes méthodes. L'Esprit les a données comme ça, si tu veux que ça soit profitable, et fais-moi confiance. Alors, je me suis humilié devant le Seigneur d'avoir eu cette pensée, de vouloir être moderne. Je veux rester simplement dans l'humilité homme de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Il y a donc 915 versets dans ce livre des Proverbes. Il nous reste à en considérer encore combien ? Je vous laisse faire le calcul. Hein? En tout, il y a 915 versets. Combien en a-t-on vu jusqu'à maintenant ? Ce n'est pas à moi à vous le dire. Mais est-ce que vous vous souvenez du verset central ? Chapitre 16, verset 18. L'orgueil va devant la ruine et la fierté d'esprit ou l'esprit hautain devant la chute, devant l'écrasement. Il nous faudra donc nous contenter à sortir de cette multitude d'instructions qui est devant nous, celles qui nous paraissent les plus remarquables ou les plus utiles pour notre vie personnelle. Pour les uns, ça sera tel verset, pour les autres, tel autre, ou alors de considérer, nous arrêter peut-être sur les versets qui nous paraissent les plus difficiles. Mais on ne pourra pas s'arrêter longuement sur chaque verset. On va essayer alors de s'arrêter sur les versets les plus difficiles à saisir. Et je compte beaucoup que le Seigneur vous donnera le goût de sa parole et que vous allez continuer votre temps après le temps. Comprenez-vous ? Vous allez continuer cette étude, mais parce que maintenant, bien de larges avenues vous ont été ouvertes, pas par moi, mais par le Saint-Esprit, vous voyez combien ces proverbes sont remplis de l'Évangile, avant la lettre. Et combien le langage de Jésus ressemble à ce que vous auriez lu dans les proverbes, et ça vous donnera le goût d'aller dans l'Ancien Testament. Et vous savez, vous ne direz plus que c'est une morale judéo-chrétienne, mais vous direz, c'est vraiment la voie de la sagesse. Alors que, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, et qu'on entend les voix du monde, même des grands personnages, c'est la voix de la folie. Et qu'est-ce qu'on arrive à faire ? Oh, mais vous direz, mais ne niez pas les progrès de la science, je ne nie rien. Mais je vous dis, avec toute la technique de ce monde moderne, avec tous les gadgets qui sont arrivés à faire, pour notre confort dont nous usons, bien sûr, mais au fond, est-ce qu'on résout les problèmes cruciaux, vitaux de cette planète ? On marche sur la Lune, belle affaire. Mais est-ce qu'on marche sur la terre pour apporter la délivrance à ces peuples dans la détresse ? Ou bien est-ce que l'on connaît la délivrance personnelle, la délivrance de nos passions ? Ou bien est-ce qu'on est toujours esclave de nos sens ? Ne pouvons-nous pas nous en sortir ? Et pensons peut-être qu'il n'y a qu'une solution, celle du suicide. Puisque je n'arrive pas autant à mourir. Et ce sont des philosophes qui nous ont enseigné ça il y a quelques années, qui disaient que la seule possibilité pour l'homme, sa seule liberté, c'était de mettre fin à ses jours. Il n'a pas pu naître lui-même, hein. Il n'a pas pu se faire naître. On a dû naître. Et on est né sans l'avoir voulu. Mais ce que je peux faire alors ? Je puis monter la vie. Ça, c'est possible. On pense que c'est possible. Puis enfin, c'est possible. Alors voilà, je veux user de ma liberté et je monterai la vie quand j'estime que j'ai fini et que j'en ai assez. Donc, j'échappe complètement au contrôle de Dieu. Soi-disant. On pense. Et si je m'enlève la vie, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais tomber entre les mains de qui ? Du Dieu vivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que je vous dis des choses fausses ? Ou bien est-ce que c'est la parole ? Est-ce que cela correspond à la logique quand même ? que le Seigneur nous a donnée. Il nous a donné une raison humaine. Il ne nous a pas créés fous. Nous devenons des fous. Mais nous ne sommes pas nés fous. On a la possibilité de devenir fous. Mais le Seigneur voudrait faire de nous des sages. Mais pour être sage, il faut accepter notre dépendance. La créature ne peut pas, par définition, être indépendante. Et c'est ça qui a perdu le premier couple. Ils ont cru qu'ils pouvaient accéder au dessein de Dieu sans Dieu. Ils veulent parvenir à la gloire, mais sans Dieu. Alors je me permettrai peut-être, et mes amis, nos amis ici qui sont là depuis quelques jours, depuis le début du camp, comprendront, il est peut-être bon ici de rappeler les règles. Nous avons notre sœur Rosine, que nous aimons beaucoup et qui a tout son travail là dans le Grand Nord. Eh bien, nous avons dit que pour étudier ces textes, et peut-être que c'est bon de le rappeler parce que maintenant nous entrons dans ces chapitres 10, dans ces maximes même, quelques règles. On en a mis 7 devant nous. Bien comprendre le sens des mots d'abord. N'est-ce pas? Peut-être il faudrait prendre un dictionnaire, mais je veux savoir qu'est-ce que veut dire ce mot. J'accepte pas de lire, j'ai pas compris, mais je l'avale. Il faut pouvoir savourer un mot. Bien comprendre le sens des mots. Donc il faut lire la parole en la mâchant, puis peut-être en la ruminant. Et puis, deuxième règle, avoir justement ce cœur humble et soumis, puisque le Seigneur nous dit que c'est à des enfants qu'il veut se révéler. Il ne faut pas dire, oh mais moi j'ai pas assez d'intelligence, d'instruction, je n'ai pas assez d'années scolaires pour pouvoir comprendre les vérités spirituelles. Dieu révèle ces choses aux humbles, aux petits. Il les cache aux sages et aux intelligents. Alors soyons humbles, prions dans notre lecture, demandons au Seigneur de nous éclairer, il le fera. Troisième règle, nous laisser interpeller, nous sentir concernés par la parole, même si ça nous fait mal. Voyez-vous, il y a peut-être, on découvre en nous, par la parole, certains abcès. Puis on voudrait que moi j'apporte de la pommade. Mais si je vous mets de la pommade, vous aimerez bien ma caresse, mais ce n'est pas d'une caresse que vous avez besoin. C'est peut-être d'un coup de bistouri. Parce que sans ça, avec toutes mes pommades, je vais encore vous empoisonner. Parce que le mal reste à l'intérieur et va se répandre dans le corps tout entier. Alors il vaut mieux le coup de bistouri. Peut-être même le Seigneur allait plus fort que le coup de bistouri, il disait, ta main, coupe-la. Ton œil, arrache-le. Ton pied, coupe-la. Il y a des choses qu'il faut savoir couper. C'est le Seigneur qui l'a dit. Quatrième règle, retenir chaque jour une parole précise pouvant nous instruire, et spécialement maintenant que vous entrez dans cette partie du livre. Et dans votre partage, vous devez déjà le voir, ça, un est touché par un texte, l'autre par un autre texte, parce que on n'est pas dans les mêmes circonstances. Vous ne pouvez pas tout retenir, je le sais bien, et je ne vous demande pas l'impossible, mais qu'au moins, vous puissiez dire, ben moi, personnellement, aujourd'hui, il y avait une parole qui me concernait. C'est cela que l'on retiendra. Alors, vous ne retiendrez pas tous les mêmes paroles, mais il y a une parole. Et si elle vous a touché, vous la prenez par cœur. Vous la mémorisez, parce qu'elle vous sera utile, car c'est cela que nous dit Paul dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, où nous tirons cette règle. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour instruire, pour enseigner, pour corriger, et puis pour convaincre. Et il faut que nous devenions des convaincus, et non pas des vaincus. Cinquième règle, rechercher à découvrir dans chaque chapitre un portrait du Christ, parce que c'est ça qui devient passionnant. Il nous a tant aimés, je l'aime, je voudrais le connaître davantage. Celui qui a pu donner sa vie pour que tous mes péchés soient effacés et que moi qui étais digne de l'enfer, j'aille au paradis dans la gloire éternelle. Je veux trouver le plus de portraits possibles de mon bien-aimé Sauveur dans chaque chapitre. Sixième règle, éviter de voir des contradictions dans le texte. Parce que justement, les proverbes nous donnent une règle générale, mais vous allez comprendre qu'il y a des exceptions à toute règle, mais les exceptions confirment la règle. Mais au lieu de voir des contradictions, nous comprenons qu'il y a certaines exceptions. Et septième règle, trouver des exemples d'hommes et de femmes pouvant illustrer chacun de ces versets. Ça vous donnera de la lumière, et alors ça c'est une étude passionnante qui vous fera lire la Bible. Vous chercherez dans la Genèse, quels sont, parce que il y a beaucoup d'exemples dans la Genèse, des exemples historiques, quels sont les hommes qui peuvent éclairer tel verset dans leur situation, dans leur vie. Puis vous direz, mais dans l'Exode, est-ce que j'en trouverai? Dans le Lévitique, est-ce que j'en trouverai? Dans le Deutéronome, est-ce que j'en trouverai? Dans les Nombres, est-ce que j'en aurai trouvé? Dans Josué, dans Juge, dans Ruth, et vous apprenez la liste des livres. Puis vous vous direz tout à coup, mais tiens, il y a un livre là, je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu. Alors vous vous mettrez à le lire, même si vous trouviez, c'est peut-être pas intéressant, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, mais vous direz, mais ça se répète. Non, il y a des perles que vous trouverez qui ne sont pas dans les rois. C'est peut-être le même récit, mais il y a des aspects différents. Il y a des choses, évidemment, qui sont communes. Puis après, vous irez plus loin, après ces livres historique, vous arrivez aussi à Esdras, Néhémie, Esther, puis tout à coup à Job. Est-ce qu'il y a des exemples dans le livre de Job? Dans les psaumes. Puis maintenant, on est dans les proverbes. Puis après les proverbes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Ecclésiaste. Puis après l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Alors, vous savez, là, eh bien, vous y trouverez des expressions que j'ai peut-être pu employer. J'ai pas été si loin de tout ce qui est dit. Il y a des gens qui allaient au Val-de-Grâce, à Paris, il y avait une maison de la Bible, et le directeur autrefois du Val-de-Grâce, là, de cette maison de la Bible, me disait... Il y a beaucoup de personnes, surtout des jeunes, ils viennent pour acheter une Bible. Mais la première chose qu'ils nous demandent, est-ce qu'il y a le Cantique des Cantiques dans votre Bible? Parce qu'ils voulaient acheter la Bible pour le Cantique des Cantiques. Pour quelle raison? C'est pas un livre pornographique, le Cantique des Cantiques. Loin de là. Mais pour le lire avec vraiment profit, il faut avoir les pieds déchaussés. Et si... Vous aviez lu peut-être ce que Saint Jean de la Croix a écrit sur le Cantique des Cantiques. Vous verriez que c'est une merveille. La montée au Carmel, la nuit obscure de l'âme, la vive flamme d'amour, le cantique spirituel. Et Saint Bernard, vous me direz, mais qui est-ce que vous citez? Ben, je cite des hommes de Dieu qui existait avant nos milieux, et je ne crache pas dans ce qu'ils, sur ce qu'ils ont écrit. Oui, nous faisons un tri, mais tout ce qui est conforme à la pensée du Seigneur, nous l'acceptons et nous nous sentons donc reliés, non pas seulement à ceux qu'on appelle nos devanciers, parce qu'ils ont été à l'origine du réveil du siècle dernier. Et quand nous allons jusqu'au père de l'Église et au grand-père, que vous pouvez encore préférer au père de l'Église, qui sont les grands-pères? Les apôtres, hein. Puis après les apôtres, il y a eu ce qu'on appelle les pères de l'Église. Puis après, pour nous autres protestants, il y a eu les réformateurs. Mais nous n'allons pas simplement revenir aux réformateurs il y a 4 ou 5 siècles. Nous allons plus en arrière, jusqu'aux apôtres, jusqu'au Seigneur lui-même. Il ne faut pas croire que les vérités du christianisme ont commencé avec nos milieux. Et je voudrais tout de suite préciser ici que si vous pensez quelquefois que je critique les milieux évangéliques, mais ce n'est pas vrai. Je suis un évangélique, c'est pour ça que je puis me permettre cela, parce que je me critique moi-même. Mais nous devons non pas retomber dans cette idée, comme ça a été dans le catholicisme, que hors de Rome, pas de salut, de telle manière que hors de notre milieu, hors de nos groupes, pas de salut pour les autres. C'est cela qui est dangereux. C'est de retomber dans les hérésies, dans les erreurs que nous avons pensé quitter et que nous replaçons de nouveau pour nous sous un autre nom, mais nous devenons comme les autres. Et puis, tant qu'un mouvement est persécuté, il est fidèle, il y a de la vérité, mais une fois qu'il croit que tout lui est possible, eh bien, il devient persécuteur. Alors, il faut faire très attention à cela. Alors, je souligne simplement cela, il n'est pas question de médire des milieux évangéliques, puisque je suis moi-même un évangélique, mais il est question de veiller. Et la parole prophétique, c'est une parole, justement, qui bouscule. Une parole qui nous remet sans cesse en question. C'est très difficile d'accomplir une mission prophétique, d'être la bouche de l'Éternel. Et voyez-vous, c'est toute la vie que l'on se rend compte de cela, que l'on voudrait biaiser. Je me souviens d'un moment à Lausanne, en Suisse, où j'avais de grandes réunions, il y a bien longtemps de cela, il y a 40 ans, et puis on priait avant d'apporter le message dans ces grands milieux où il y avait déjà 700 personnes de rassemblées et puis des gens qui connaissaient la parole aussi. Eh bien, j'étais dans les toilettes parce que, voilà, c'est un lieu que je fréquente. Et heureusement encore, hein, qu'il y a les toilettes. Mais si on ne nous a pas donné un autre coin, ben, au moins là, on peut être seul. Enfin, on s'isole, disons. Mais je vous invite tout de suite, hein, de vous isoler mieux en allant dans les toilettes sèches. Parce que là, vous n'aurez pas le stress que vous avez là à côté, parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous, puis vous n'êtes pas libre, puis ça vous constipe encore. Alors, allez dans les toilettes sèches, là, vous êtes dans la nature, personne ne vous écoute. Vous serez détendu, ça ira beaucoup mieux. Mais il y en a, je ne sais pas pourquoi, ils pensent que il n'y a pas d'odeur dans ces toilettes sèches. Ou tellement peu. Alors, nous sommes des stupides, des simples. Alors, je vous ai invité. Ça va vous aider. Et puis, buvez de l'eau le matin, à jeun. Pas de l'eau dérobée. L'eau qui vous est offerte et qui vous est offerte gratuitement. Et qui n'a pas le goût de chlore. Buvez, mes bien-aimés. Donc, mes amis, nous en revenons à nos proverbes. Et qu'est-ce que nous voyons? Comme dans l'introduction, cela nous a été montré, dans le chapitre premier, l'auteur a devant avant tout l'éducation morale de la jeunesse. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce thème dans cette année internationale de la jeunesse. Il s'adresse donc à des gens inexpérimentés, à des simples. Mais l'auteur veut aussi donner des leçons aux parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Il y a ici des futurs parents. Alors, si vous voulez éviter des ennuis à vos enfants, gardez cet enseignement des proverbes. Un fils sage réjouit son père, un fils insensé méprise sa mère. Alors, je ferai tout d'abord une observation générale. l'auteur oppose le sage à qui ? À l'insensé. Hein? Le juste au méchant. L'homme intelligent à celui qui est dépourvu de sens. Il oppose le pécheur à des gens de bien. Hein? Voilà ce que nous trouvons. Alors, ce sont des expressions parallèlement synonymes, d'où nous concluons, comme tout le reste de la Bible, qu'il y a, proprement dans ce monde, que deux classes d'individus, au fond. C'est vrai ou c'est faux ? Il y a dans ce monde que deux classes d'individus, ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, et ceux qui sont conduits par la chair. Romains, chapitre 8. Ceux qui sont justifiés sur le principe de la foi et ceux qui ne se repentent pas de leurs méchantes œuvres. Ceux qui connaissent le Seigneur et qui l'aiment et ceux qui demeurent étrangers à ses voies. Donc, il y a deux classes de personnes, les pécheurs convertis et les pécheurs inconvertis. Ces deux classes se subdivisent en plusieurs autres et on peut passer de la seconde, des pécheurs inconvertis, à la classe des pécheurs convertis, qui ont accepté donc le Seigneur. On peut passer d'une classe à l'autre, de la deuxième classe à la première, et devenir un pécheur converti. Mais, et c'est là que je voudrais insister, il n'est pas toujours facile de déterminer à laquelle des deux classes appartiennent un individu. Et j'étais heureux, dans le camp familial, d'entendre notre ami Leslie Mured, et je pense que j'ai bien compris, qui a dit qu'on ne pouvait pas décider et dire d'une personne qu'elle est réellement sauvée ou qu'elle est perdue. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit ? Il l'a dit, hein ? Il l'a dit. Qu'on ne peut pas nous-mêmes le dire. Et j'étais heureux de l'entendre, hein, parce que des fois on se sent tellement solitaire. Alors, je voyais les 10 vierges, apparemment, de loin. Quelles sont les folles et quelles sont les prudentes ? On ne peut pas savoir. Elles ont toutes le même habit, elles ont toutes le vêtement d'une vierge, elles ont toutes dans leurs mains une lampe, et finalement, comme on l'a vu hier soir, elles sont toutes endormies. Et il faudra le coup de clairon de notre chère aide pour que, tout à coup, on se réveille. Le cri de minuit, hein, autrement dit. Et tout à coup, alors, celles qui ont de l'huile, eh bien, sont prêtes pour entrer, puis les autres, en apprêtant leur lampe, elles remarquent qu'elles n'ont pas d'huile. Elles avaient la profession, elles étaient peut-être baptisées, tout ce que vous voulez, mais elles n'avaient pas la vie. Elles n'avaient pas la vie de Dieu. Et alors, celles qui sont prêtes peuvent entrer. Mais donc, gardez-vous, malgré ce que j'ai dit, qu'il y avait deux classes de personnes, de dire, ben moi maintenant, je peux dire avec certitude que cette personne est dans cette classe, tandis que l'autre ne l'est pas. Certes, il y a des signes qui nous aident à distinguer certaines choses, parce qu'il faut savoir avec qui nous allons marcher. Alors, nous ne pouvons pas vivre seuls comme chrétiens. Nous devons nous joindre à une communauté. Nous avons du contact avec des personnes. Avec qui est-ce que je vais marcher ? Avec qui est-ce que je pourrai prier ? Avec qui est-ce que je serai en communion ? Avec qui ? Avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Poursuis. Qu'est-ce que je peux poursuivre ? La foi, l'amour, la paix. La justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais qu'est-ce que je dois laisser de côté ? Fuis les convoitises de la jeunesse. Il y a donc des choses dont je dois me séparer et d'autres que je dois poursuivre. Si vous avez reçu la foi, joignez à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. Et vous avez tout un enchaînement que vous trouvez dans le chapitre 1 de la deuxième épître de Pierre. Hein? Et comme cela, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles feront que vous ne resterez pas oisifs ni stériles quant à la connaissance de Dieu, et elles vous donneront finalement une riche entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a tout un travail à faire. Et si on remarque qu'une personne nous semble avoir la vie de Dieu, bien évidemment, il y a des fruits dans sa vie, du fruit, mais du fruit, c'est pas de dire j'ai pu amener au Seigneur tant de personnes. Le fruit, c'est avant tout le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix. Cet ensemble de toutes les grâces qui donne aux chrétiens une personnalité attrayante dans laquelle le monde reconnaît quelque chose du Christ. Alors nous garderons de juger, parce que Dieu seul connaît le fond des cœurs. Alors ne classons pas nous-mêmes les gens parmi les sauvés ou parmi les perdus. Nous risquerions de nous tromper, laissons Dieu faire ce triage. Dieu connaît, lui, ceux qui lui appartiennent. Et souvenez-vous toujours que de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. Qui est-ce qui a dit ça? De la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré? C'est Jésus. Qui est-ce qui a dit ne jugez pas afin de ne pas être jugé? Parce que vous savez, on peut avoir bien commencé et puis mal fini. Vous voyez quelqu'un qui donne beaucoup d'espérance au point de vue spirituel et puis qui finit dans la catastrophe. Puis nous, on l'avait porté au nu, puis après alors, on le jette déjà dans l'enfer au lieu de prier pour lui. On lui a fait beaucoup de mal parce qu'on l'a flatté et puis il avait déjà une grosse tête, puis ça a gonflé. Alors attention, souvenez-vous de ce que vous avez appris dans vos classes. La grenouille qui a voulu devenir bœuf. Quand on veut devenir bœuf, on éclate. Alors nous arrivons à notre chapitre 10. Mettons en pratique alors la septième règle que j'ai citée. Parce que la force, l'importance et la valeur des proverbes ressortiront surtout par les exemples que l'Écriture peut nous donner. Alors, nous lisons ça. Un fils sage. Nous allons aller très rapidement parce que c'est très simple. Surtout dans le chapitre 10, il n'y a pas de choses bien compliquées. Un fils sage fait la joie de son père. Et c'est vrai? C'est vrai, hein? Bon. Et puis, un fils insensé, c'est le chagrin de sa mère. Qui est-ce qui en souffre peut-être le plus? C'est la mère, hein? C'est la mère. Il n'est pas plus grande joie pour les parents que de voir leur famille marcher dans le bon chemin. C'est un bonheur. Alors, tous, même dans une famille chrétienne, nous sommes nés des enfants de la chair. Est-ce que je suis né d'une autre façon qu'un autre? Non. Je suis né de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Puis, si je suis né enfant de personnes incrédules, je suis aussi de chair. De sorte que, pour devenir un fils sage, que je naisse dans une famille chrétienne ou que je naisse dans une famille d'incrédules, il faut que je naisse de nouveau. Et comprenez-le bien, dans nos milieux évangéliques, il faut que les gens naissent de nouveau. Sans ça, ça deviendra aussi simplement comme autrefois dans le romanisme, du moment qu'on était né dans l'Église, on était sauvé. Vous comprenez? Alors, du moment qu'on est né dans un milieu évangélique, on est sauvé. Et voyez-vous, moi qui ai fait des camps tant d'années dans ces milieux, on a introduit les camps dans nos milieux d'assemblée en Suisse Eh bien, je me souviens, je parlais, j'avais des entretiens avec chaque conqueur, et je leur disais, alors toi, depuis quand est-ce que tu es sauvé?
On est depuis toujours.
Et je remarquais que ce garçon n'avait pas du tout un témoignage. Il pouvait sacrer, il pouvait dire des plaisanteries à double sens, mais il était sauvé depuis toujours. Alors qu'est-ce que je devais lui dire? Mon cher ami, en enfer, il y a un tas de sauvés depuis toujours. Alors, vous comprenez pourquoi on me détestait après? Mais parce que je les aimais. Il dit, mais... J'ai dit, comment tu sais que tu es sauvé? Mais mon père, il enseigne dans l'assemblée. Belle affaire. Ton père est curé? Hein? Alors, vous voyez comme c'est dangereux. Parce qu'il y a une tradition, puis on est né là, puis on va aux réunions, parce qu'on est... Il y en a un qui m'a dit, vous comprenez, je suis bien obligé d'aller aux réunions, mon père, si j'y allais pas, il me couperait des fonds pour les études. Puis une fois qu'on a fini les études, papa, maman, salut, je t'ai vu. Hein? On épouse la fille qui nous plaît. Elle me plaît comme Samson. C'est une philistine, mais elle me plaît. Alors, le père cède. Un fils sage réjouit son père, un fils insensé et le chagrin sa mère. Il n'y a pas de difficulté là. Maintenant, si vous voulez un exemple de des exemples de fils sages, il y en a beaucoup, quand même. Qui? Dans la Genèse. Oui, dans la Genèse. Oui, oui, c'est vrai. Abel d'abord, oui. Et ensuite, on pourrait prendre Joseph, qui a réjoui le cœur de son père. On pourrait prendre David aussi, et pour prendre une femme... Abigail, hein, qui veut dire la joie de son père. Abigail veut dire la joie de son père. Ben, je trouve que c'est beau. Hein. Donc, vous voyez, parce qu'on mettait toujours un nom qui avait une signification. Mais le chagrin de sa mère, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui était le chagrin de sa mère? Caïn, si vous commencez par là. Hein. Mais il y en a d'autres. Et puis, vous l'avez dit, Ésaü, qui était le chagrin de qui? De Rebecca. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Mais vous voyez, je crois que si vous comprenez cette règle, tout va s'éclairer. Verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? De façon générale, c'est vrai. Hein? Il y a peut-être des exceptions, mais d'une façon générale, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous mettrez pour illustrer ça? Ben peut-être que dans Josué, vous avez un bon exemple. Les trésors de la méchanceté. Il était interdit de prendre dans la ville de Jéricho quelque chose pour soi, du butin. Il fallait tout mettre dans le camp de l'Éternel. Qui est-ce qui a fait autrement? Achan. Il a convoité un manteau de sinard, il a convoité des pièces d'argent, des sacs d'argent et des lingots d'or. Il a caché ça dans sa tente. Ça lui a profité? Non. Achan a été découvert et lapidé dans la vallée. D'accord. Il n'a pas profité de cela. Il a fait au contraire mourir toute sa famille. Alors qu'il a eu l'occasion pendant toute une nuit de se repentir et de venir confesser sa faute. Mais il ne l'a pas fait. Maintenant, prenez Achab qui a usurpé de son pouvoir par sa femme Jézabel et qui a pris la vigne de qui? De Naboth. Est-ce que ça lui a profité? Non. Vous savez ce qui est arrivé et à Jézabel, la femme qui aimait s'en mettre sur la figure. Hein, il y avait déjà des femmes qui se fardaient outrageusement ce temps-là. Jézabel. Et qui a fini de quelle triste manière. Défenestrée. Vous savez ce que ça veut dire? Passer par la fenêtre. Et oui. Puis qu'est-ce qui lui est arrivé? Conduite au salon mortuaire? Les chiens ont fait le travail.
on a retrouvé que les paumes des mains. Quand on a voulu s'occuper de ses restes. C'est quand même terrible. Mais vous voyez ça, les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Vous pourriez trouver d'autres exemples. La justice alors délivre de la mort. Oui. Mais en reprenant depuis la Genèse, Noé, Lot, malgré qu'il était comme c'est comme ça, mais enfin grâce à la prière d'Abraham, Dieu a vu quand même que c'était un homme qui souffrait des péchés qu'il voyait autour de lui. David, il y a eu Ézéchias, il y a eu Paul, mais aussi, alors dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui n'a pas profité de l'argent, Judas, n'est-ce pas ? Judas, les trésors de la méchanceté ne profitent pas, ça n'a pas profité à Judas, ces 30 pièces d'argent. Alors allez plus loin, verset 3. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Quel exemple ? Élie, n'est-ce pas, il était nourri même par des corbeaux qui respectaient sa nourriture. Matin et soir, le Seigneur lui donnait de la viande et du pain. Alors pour ceux qui veulent le régime végétarien, ça ne collait pas. Le régime végétarien, ben c'est peut-être bon, mais ce n'est pas nécessairement Dieu qui l'a donné. Il l'avait donné pour Adam, quand il était dans des conditions extrêmement favorables, il n'avait pas besoin de viande. Il n'avait pas un travail pénible. Mais c'est Dieu lui-même qui a changé le régime. Au temps de Noé, il a donné la viande. Alors régime carné, régime végétarien, faites ce qui vous convient. Mais ne pensez pas que parce que vous suivez le régime végétarien, vous êtes plus spirituel que ceux qui mangent de la viande. Vous voyez, la parole de Dieu, elle nous éclaire. La parole de Dieu nous enlève de tout fanatisme. La parole de Dieu, elle nous équilibre. Elle nous donne un équilibre. Puis elle permet que nous soyons vivables pour les gens qui nous entourent. Oui, parce que celui qui a arrêté de faire le régime végétarien, il est bien embêtant, quelquefois. On croit faire un repas, il ne veut pas manger ça, non, moi je suis le régime. Bon. Alors allez faire votre popote. Ne m'imposez pas votre régime aux autres. Il repousse l'avidité des méchants. Là aussi, vous pourriez donner plusieurs exemples. L'avidité des méchants. Prenez Aman qui vivait au temps d'Esther et qui voulait avoir la première place. Son avidité a été repoussée. Lisez le livre d'Esther. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Est-ce que c'est vrai? Si vous ne voulez pas travailler, ben ne pensez pas que vous vous enrichirez. Et là, vous pourriez aussi trouver plusieurs exemples de paresse, mais nous passons. Et celui qui désire prospérer, il faut qu'il ait une main diligente. Alors, il peut s'enrichir, mais s'enrichir pour mieux vivre lui-même, non, peut-être pour pouvoir donner, aider les autres. Le travail est une bénédiction. Verset 5, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Vous pouvez penser là aussi à la cigale et la fourmi. Simplement, de la littérature profane, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Bien, ce verset, je me souviens, c'est en Suisse aussi où je suis né, où j'ai vécu, en tout cas mes 20 premières années, eh bien, là, un fils qui fait honte. Je vous ai raconté un rêve. J'ai connu un jeune homme en Suisse, dans le Jura, qui faisait partie d'une assemblée très évangélique, et qui, une nuit, a eu un rêve. c'était le temps de la moisson, et puis les gens travaillaient pour serrer les gerbes sur le char qui allait conduire dans la grange, et lui, il était étendu dans le champ, et il rêvait, il était étendu dans le champ, puis il avait un oreiller sous sa tête, et il a vu qu'il était marqué sous l'oreiller, « Je suis sauvé, j'attends le Seigneur. » Puis il dormait sur cet oreiller. Et tout à coup, il a vu des nuages très noirs, comme on a pu voir nous aussi, et c'était l'orage qui venait. Et il restait là, à regarder, plus ou moins, ceux qui travaillaient, qui se dépêchaient pour rentrer là, en moisson. Et puis, tout à coup, il a entendu cette parole dans son rêve, « Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Il s'est réveillé, il était en sueur, et le Seigneur lui a donné l'explication de son songe. Et il l'a raconté dans l'assemblée de Balègue, là où, que je connaissais bien, et il a confessé cela publiquement, et il a dit, ben voilà, moi, je suis sauvé, c'est vrai, mais j'attendais le Seigneur, je sais que j'aurai part peut-être à sa venue, à son retour, mais au fond, je ne fais rien pour lui, je me satisfais moi-même, je viens aux réunions, mais je n'ai pas à cœur l'œuvre du Seigneur. Et il a été réveillé. Hein? Vous savez combien il a vécu après ça? 6 mois. Il est mort 6 mois plus tard. Vous voyez que le Seigneur l'avait averti, Dieu parle une fois, deux fois. Et les moyens qu'il emploie sont souvent des moyens doux. Dans un songe, chapitre 33 de Job, quand une vision tombe sur lui pendant qu'il dorme, eh bien, ça, c'était le moyen de réveiller ce jeune ami qui est maintenant vers le Seigneur. Eh bien, vous voyez, il était réveillé par un verset des Proverbes. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc, c'est pas vrai seulement matériellement, mais c'est vrai aussi spirituellement. Alors, vous voyez tout ce que cela peut vous apporter comme nourriture et comme application. On pourrait faire des heures de réunion sur chaque verset. Verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Qu'est-ce que vous pourriez prendre comme exemple? Les bénédictions sur la tête du juste. L'approbation de Dieu sur la tête d'Abel. Hein? Abel est béni. Abraham est béni. Joseph est béni. Samuel est béni. David est béni. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'épreuves. Mais, alors, la violence couvre la bouche des méchants. Ces méchants qui ont pu dire toutes sortes de méchancetés, toutes sortes de choses, bien, nous aurions des exemples pour montrer qu'ils ont fini eux aussi dans la violence. Abimelech, qui veut tuer tout le monde, qui est un violent, qu'est-ce qui lui arrive? Une femme, vous dire encore une femme. Elle lui envoie une meule sur la tête depuis le haut de la tour de la ville. Il meurt dans la violence, le violent meurt dans la violence, bien sûr. Il a eu des propos violents et il meurt aussi, lui, dans la violence. Saül, qui était aussi un violent, ben, il meurt. Chimie, qui est un violent, qui critiquait, qui blasphémait contre David. Absalom, qui a voulu tuer qui? Son propre père. Il est mort comment? Pendu par les cheveux. Sa chevelure dont il se glorifiait, c'est sa chevelure qui va, au fond, lui donner l'occasion de mourir et de recevoir les javelots de son cousin, qui le tue, malgré l'ordre du roi, qui avait dit d'épargner le fils. Alors, tous ces versets vont s'éclairer. Verset 7, la mémoire du juste est en bénédiction. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oui, mais qui est le juste? C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prend le repas du Seigneur? On se souvient
de lui. C'est un mémorial, n'est-ce pas? La Sainte Cène, le mémorial de la vie du juste, la mémoire du juste est en bénédiction. Donc, être à la table du Seigneur, c'est une bénédiction. Communier, c'est une bénédiction. Alors, on pourrait prendre, en dehors de Jésus, Élisée, sa mémoire est en bénédiction, puisque même une fois qu'il est enterré, dans une certaine histoire, il est parlé d'un homme qui a été tué dans la bataille, puis on n'avait pas le temps de l'enterrer, parce qu'en Israël, il faut enterrer les morts, vraiment. On l'a jeté dans le sépulcre d'Élisée, et en touchant les os d'Élisée, qu'est-ce qui est arrivé? Il a ressuscité, il a repris vie. Deux Rois 13, verset 21. On pourrait parler de Jéhoiada, et pour vous donner l'occasion de parler de femmes, on pourrait parler de Dorcas et de Marie, Marie de Béthanie, celle qui a oint le Seigneur, et dont on parle encore. La mémoire du juste est en bénédiction. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. Regardez le nom d'Hitler. Regardez le nom de Mussolini. Enfin, nous qui sommes plus âgés, nous pouvons bien nous souvenir de cela. Ces noms qui ont fait trembler le monde. Puis qu'est-ce qu'ils sont maintenant? Dans la pourriture. Mussolini pendu par les pieds à Turin. Avec la Petacci, sa maîtresse. Nus. Et on leur crachait. On crachait contre ces cadavres. Après avoir dit, et je me souviens, en 39, j'étais en Italie, dans ma convalescence, puis on criait, « Viva il Duce, viva il Duce !» Voilà maintenant. C'est ça les idoles. On met quelqu'un sur le piédestal, et puis après, on brise l'idole. Et vous continuez. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, quel que soit celui qui les lui donne. Mais si je suis sage de cœur, j'ai un discernement, je me dis, c'est vrai ce qu'il dit, alors j'en prends de la graine. Mais celui qui est insensé des lèvres, il court à sa perte. Et ça aussi, vous pouvez le contrôler. Mais il faut de l'humilité pour recevoir les préceptes. Il faut se dire, je peux même recevoir de cet homme-là quelque chose. Mais si je refuse, eh bien, je cours à ma perte, comme ce fut le cas pour Absalom, comme ce fut le cas pour Jézabel. Puis, au verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Donc, si vous êtes dans la droiture, si vous êtes vraiment dans la transparence, vous êtes dans l'assurance. Vous marchez avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. C'est pourquoi veillez à ne pas devenir des hypocrites. Soyez vrais. Soyez transparents. Puis alors, vous retrouvez maintenant des versets qui vont vous aider pour le verset 10. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin. Celui qui fait des signaux, au fond, en cachette, on cligne des yeux parce que on a un esprit dissimulé. Bien, on cause du chagrin, et on pourrait donner des exemples. Celui qui est insensé des lèvres, quand on laisse, au fond, sur nos lèvres toute espèce de parole, qu'est-ce qu'on montre? On montre ce dont notre cœur est rempli. Et on court à sa perte. Le péché de la langue. La bouche du juste est une source de vie. Vous pouvez, par une parole, soutenir celui qui est las. Alors remplissez votre cœur de paroles et le Saint-Esprit vous donnera la parole à propos, comme il est dit, des pommes d'or incrustées d'argent. Telle est la parole dite à propos. une parole qui peut apporter le salut. Mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite les querelles, et c'est vrai. Mais l'amour couvre toutes sortes de péchés. Souvenez-vous de ceux qui ont couvert le péché de leur père, c'est qui ? Les fils de Noé. Tandis que Cam a découvert le péché de son père. Venez voir le père, il a bu, il est ivre, et puis il s'est endormi sans avoir mis son pyjama. Les frères prennent une couverture et refusent le spectacle. Et en marchant à reculons, ils jettent la couverture sur leur père. Couvrir le péché, couvrir la faute des autres, au lieu d'aller la révéler et de se gargariser en racontant ce que tel ou tel a fait, au lieu de couvrir le péché, de prier pour le salut du pécheur. Et vous pouvez continuer. Nous étions à quel verset ? 12. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Si elle est dans notre cœur, elle sera aussi sur nos lèvres. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Si vous ne comprenez pas par la tête, vous comprenez par le bas du dos. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Ça, on a aussi 1000 exemples. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Et c'est vrai que pour le riche, eh bien, il y a des avantages. C'est une ville forte, momentanément peut-être. Tandis que ce qui est la ruine des misérables, c'est la pauvreté. Parce que la pauvreté peut nous conduire peut-être au vol. C'est pourquoi il a dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. Voilà de nouveau l'équilibre. L'œuvre du juste est pour la vie. Et c'est vrai. C'est une œuvre pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Plus on gagne, souvent, plus on veut satisfaire nos convoitises. Tandis que l'œuvre du juste, elle est pour la vie, pour faire vivre d'autres personnes. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Et ça, c'est nos enfants. Hein. Quand on a su les corriger à temps, ils prendront le chemin de la vie. Mais si on les a laissés tout faire, ben, qu'est-ce qui arrive ? Celui qui oublie la réprimande s'égare. David n'avait jamais réprimandé son fils Adonija. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Hein. On est plein de haine, mais on flatte. Attention. Celui qui répand la calomnie, il est un insensé. Il agit comme si Dieu n'existait pas. On répand des calomnies. Il y avait un livre qui avait paru il y a bien longtemps en France qui s'intitulait « Comme une plume au vent ». Alors, aller avec un sac de plumes au sommet d'un clocher, Ruth, il t'a raconté ça, ton père. Oui. Je crois que c'était ton père qui me l'avait dit aussi. On va au sommet d'un clocher, puis vous jetez les plumes. Allez les retrouver. Comme une plume au vent. Voilà la calomnie. Allez reprendre tout cela. Vous avez dit du mal de quelqu'un, vous l'avez calomnié, ça reste. Les gens disent, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. On aime bien ça. Puis, il y en a qui se rassasient de calomnies. C'est une manière de s'élever, d'abaisser les autres. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors attention. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Savoir retenir ses lèvres. ne pas dire n'importe quoi. La langue du juste est un argent de choix. N'est-ce pas? Si le Seigneur peut employer ma langue, ça sera un argent de choix. Ça peut apporter une bénédiction. Le cœur des méchants, c'est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, parce que c'est un conseil. Les insensés meurent par défaut de raison. On n'a pas raisonné, on a fait les choses sans penser. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est beau ce verset, hein? Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, quand c'est Dieu qui donne sa bénédiction. C'est pour ça que dans les mariages, vous devez recevoir la bénédiction de qui? Du Seigneur. C'est là votre vraie richesse. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Hein. Commettre un crime, aujourd'hui dans la ville de Montréal, c'est un jeu pour ceux qui s'y adonnent. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Que de fois on a réalisé cela. Ce que désirent les justes, leur est accordé. Le désir des justes, Dieu l'accorde. Mais il faut des fois de la patience. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Tout à coup, c'est fini. Regardez Hitler, méchant. Il a passé comme un tourbillon quand son heure est venue. Mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Ça fait mal. Hein? La fumée, on voit plus clair. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Ça, c'est la règle générale. Mais les années des méchants sont abrégées. Il y a aussi des exceptions. Alors, ne voyez pas de contradiction. Là, on pourrait donner des exemples. L'attente des justes n'est que joie. Est-ce que c'est vrai? Si vous êtes centré sur le Seigneur, votre attente, qu'est-ce que c'est? La bienheureuse espérance. Alors ce n'est que joie. Fini avec toutes nos misères physiques, morales, tout ce que vous voudrez. Mais l'espérance des méchants périra. Ces méchants qui pensent qu'ils vont améliorer le monde alors que leur cœur reste méchant. On sait bien que ce n'est pas de ce côté-là qu'on peut mettre notre espérance. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. C'est vrai. Hein? Si partout où un homme craint Dieu, eh bien, c'est un rempart pour la justice, pour l'intégrité. Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Parce que Dieu a ses yeux sur les méchants. Et quand on ne marche pas dans la voie de l'Éternel, eh bien, tôt ou tard, le malheur arrive. Le juste ne chancellera jamais. Ça vous fait penser à quel verset de l'épître de Jude qu'on a étudié une fois dans une fin de semaine, Mahanaïm. Le juste ne chancellera jamais. La fin de l'épître de Jude, or à celui qui peut vous préserver de toute chute. De toute chute. Vous voyez comme on retrouve le même enseignement de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est presque les dernières pages de la Bible, Jude. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Et c'est vrai. La bouche du juste produit la sagesse. Pour quelle raison que la bouche produit la sagesse? Parce que la sagesse est dans le cœur. Mais la langue perverse sera retranchée. Et c'est vrai. Vous avez encore là des exemples. Ceux qui ont menti à David, eh bien, ils ont été condamnés par leur propre dire. Le type qui a voulu se glorifier d'avoir tué Saül, il était taillé en pièces. Hein? Et
Et il n'avait pas tué Saül, mais il a voulu se faire passer pour un héros. Et il a été un zéro. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Qui a été le juste par excellence? La grâce est répandue sur ses lèvres. Psaume 45. La bouche des méchants, la perversité. Alors, quel nom donnez-vous à ce portrait du Seigneur ici? Le juste. Vous voyez, on arrive, ça devient plus facile. Hein? Là, le portrait du juste. Combien de fois est-ce que vous retrouvez ce mot? Je vous laisse compter. 13 fois. Le juste. Alors, qu'avez-vous vu dans ce chapitre? Quel est le verset qui parle le plus à votre cœur ou à votre conscience? Est-ce qu'il y a un verset qui vous a arrêté, toi?
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous, quand on fait prendre conscience que par la parole, on peut souvent faire beaucoup de mal.
Oui.
C'est un don que Dieu nous a donné. Lisez la parole, puis souvent les gens lisent ça en bon esprit.
Alors, tu vois, tu soulignes là un des péchés, justement, sur lequel souvent on ne s'arrête pas trop, le péché des lèvres. Et Esaïe, lui, il a senti cela, il a demandé d'être purifié de ses lèvres. Mes lèvres sont impures. Mais vous voyez, alors, il nous a donné un exemple d'un verset qui lui a parlé. Est-ce que vous en avez d'autres? Eh bien, comprenez, gardez un verset qui vous édifie. Trouvez-vous dans l'Écriture sainte des personnages pouvant illustrer le plus grand nombre de versets? J'espère que nous avons compris la leçon. Hein. Mais ça vous donne un champ. Quand vous ne savez pas que faire et que vous n'avez pas de mots croisés, prenez une feuille. Hein? Pourquoi pas? Ça vous donnera plus que les mots croisés. Puis, un jour de pluie, vous vous ennuyez, prenez votre Bible, puis cherchez des exemples. Ça vous fera lire la Bible. Troisième, un des caractères de l'apôtre, que l'apôtre Pierre soulignait en parlant de Jésus est mentionné plus de 12 fois ici. Quel est ce nom? Le juste. Vous avez renié le saint et le juste. Le juste, avec un grand J. Acte 3, verset 14. Et quel est l'homme aussi dans les actes qui a parlé de la venue du juste? Étienne, le juste. Acte 7, verset 52. Voilà, l'heure est venue. Vous l'avez trouvé? Ben, je vous laisse le chercher. Il n'y a pas de paresseux dans la Bible. Comment? Oui, là, vous savez, la paresse, c'est une chose qui peut entrer dans notre cœur. Tout à coup, on se voit paresseux. Mais dans l'église de Thessalonique, il y avait des paresseux. Ils ne voulaient pas travailler. On attend le Seigneur, on n'a plus besoin de travailler. On a assez de capitaux juste pour retour du Seigneur. Puis il y en a d'autres. Mais c'est cette lecture de la Bible, vous voyez, ça vous incite à chercher. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce de nous avoir donné cette heure et nous te demandons de nous donner confiance pour les heures qui viendront, pour cette soirée, afin que tu nous édifies maintenant dans cet autre rythme de notre étude. Que ta bénédiction repose sur cette journée. Nous te prions encore pour
notre Eva, afin que tu nous la ramènes, que tu lui aides dans tous les problèmes qu'elle devait résoudre, que toi-même tu sois sa sagesse et aussi son diagnostic auprès de ses malades, et qu'ainsi, dans ce service que nous accomplissons ensemble, nous puissions t'honorer et te glorifier. Merci de ce que tu nous gardes dans ce camp et de ce que cette journée sera encore ta journée. Amen.